Super, merci pour le PowerPoint. Ça, c'est l'un des livres les plus remarquables que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, je pourrais peut-être le prêter à certains d'entre vous, mais peut-être pas à tout le monde parce qu'il est en espagnol. Mais il existe aussi en français. C'est un livre de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, c'était un théologien allemand qui a été tué par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il a écrit ce livre qui s'intitule « Le prix de la grâce ». Le prix de la grâce. Alors, c'est un bel oxymore, le prix de la grâce. Parce que par définition, la grâce, ça n'a pas de prix. La grâce, c'est gratuit, c'est un cadeau. Et pourtant, Bonhoeffer rappelle dans ce livre qu'elle a bien un prix, cette grâce. Elle a même coûté assez cher, puisqu'elle a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Et comme elle a coûté si cher, cette grâce, nous ne pouvons pas, nous, la ramener au rang d'un bijou de pacotille en faisant appel à elle à la légère. Et pourtant, le pécheur qui voudra s'exonérer à bon compte de sa responsabilité, de sa culpabilité et de son besoin de repentance, le dira facilement, peut-être vous l'avez dit vous-même, moi je l'ai déjà dit, on vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Et c'est une belle manière, même si c'est juste, hein, mais quand on le dit comme ça, c'est une belle manière de mépriser la grâce. Voilà une grâce à bas coût, une grâce qui n'a pas coûté la vie du Fils de Dieu, une grâce qui piétine avec légèreté ce qu'elle a coûté au Seigneur, et au bout de laquelle, en conséquence, il n'y a pas de salut. À l'autre bout du spectre, il y a celui qui se frappe la poitrine sans cesse, celui qui pleure sur son misérable sort sans arrêt. Celui-là, il est bien conscient de son péché, il est bien conscient du prix de la grâce, de son coût, mais si peu du pardon de Dieu. Et lui, il a un besoin urgent d'apprendre que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est Jean qui le dit dans sa première épître. Parce que là encore, dans ce cœur où le coût est présent, où on a bien conscience du prix, mais où la grâce fait défaut, eh bien c'est le salut lui-même qui peine à se frayer un chemin, parce que sauvé ou non, de toute façon, on vit comme un condamné. Et le pire de tout, c'est que ce poids qu'on charge sur nos propres épaules, on tend aussi à l'imposer aux autres. Alors, naviguer entre cette loi qui condamne et cette grâce qui pardonne, ce n'est pas une chose facile. Et pourtant, c'est là toute la vie chrétienne. On passe notre vie, nous marchons constamment sur cette ligne de crête qui consiste à ne mépriser ni la grâce, ni ce qu'elle a coûté. Et dans cet exercice périlleux, il nous faut être absolument conséquent quant à la loi et en même temps absolument accueillant quant à la grâce lorsque le péché nous met en défaut vis-à-vis de la loi. Alors cette prédication, elle s'inscrit à nouveau dans la série qu'on a intitulée « Positions », précisément parce que cette ligne de crête n'est pas toujours facile à tenir. Il y a des églises qui appuient fort sur la grâce et qui tendent à un certain laxisme vis-à-vis de la loi. Et puis, il y a d'autres églises qui, au contraire, sont fermes sur la loi et qui font peser sur les épaules des gens un poids finalement trop lourd, qui est celui du légalisme. Alors, on ne prétend pas ici arriver mieux que les autres à marcher sur nos deux jambes. Comme chacun, on cherche le point d'équilibre, on le cherche honnêtement. Et puisqu'on le cherche honnêtement, il faut le dire aussi honnêtement, l'accompagnement des personnes dans la réalité du quotidien, nous amène souvent devant un choix binaire. Est-ce que là, on va appliquer la loi au risque du légalisme ou est-ce qu'on va faire grâce au risque du laxisme? On n'est pas les premiers à se poser la question. Je dirais même que c'est une question qui a sérieusement agité les conversations des premiers chrétiens. On ira lire Acte 15. Je l'afficherai ici, vous pouvez ouvrir vos Bibles, mais on ira, voilà, ce sera affiché en tout cas. Mais avant, comme à mon habitude, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est lumière et vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous permet de la recevoir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole vivante qui vient nous transformer, nous façonner de l'intérieur pour nous rendre toujours davantage à l'image de ton Fils. Seigneur, nous croyons, parce que ta parole le dit et parce que nous l'expérimentons, que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Nous te demandons qu'il en soit ainsi ce matin pour nous-mêmes. Amen. Acte 15. Nous lisons ceci. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères : si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabé, ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem, devant les apôtres et les anciens, pour parler de cette question. L'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour le voyage. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils racontaient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette affaire. Après un vif débat, Pierre se leva et leur dit « Mes frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous pour que, par ma bouche, les non-juifs entendent la parole de la bonne nouvelle et deviennent croyants. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes, n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Nous avons donc là des chrétiens d'origine juive. Au début, tous les chrétiens étaient juifs, en fait. Mais voilà, l'Évangile s'étend aux nations et on a ces chrétiens d'origine juive qui veulent imposer la circoncision et plus largement l'obéissance à la loi de Moïse aux non-juifs qui ont reconnu, comme eux, en Jésus, le Messie. Et ils en font une condition pour le salut. Mais Pierre prend la parole, on l'a vu, pour dire que les Juifs eux-mêmes ont été incapables, à travers les siècles, d'obéir à cette loi. Et il rappelle ce qu'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sauvé parce qu'on obéit à la loi, on est sauvé par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais il faut admettre que ça pose des questions. On peut comprendre que ça en pose. Et l'une d'elles, c'est celle-ci. Pardon pour les anglicismes, je vais traduire. Si on est sauvé par grâce, alors on peut pécher. Il n'y a pas de problème. Je pêche, je demande pardon, je suis pardonné. Tout va bien, on peut y aller. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Romains 6, on va se promener entre Romains 6, 7 et 8. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, c'est par là qu'il faut aller. Romains 6, versets 15 à 23, Paul répond précisément à cette question. Il dit « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? Mais jamais de la vie. Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Ce qu'on a déjà dans ces versets, c'est que par notre conversion, nous avons changé de maître. Nous étions esclaves du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Dit autrement, nous étions esclaves de Satan et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Alors, je sais que ce terme « esclave » peut choquer concernant notre relation à Dieu. Et pourtant, je crois qu'il faut le garder. Il faut le garder d'abord parce qu'il est employé dans la Bible, c'est ce qui est écrit, mais surtout parce qu'il exprime une réalité spirituelle forte, c'est qu'il s'agit véritablement d'un changement de maître. Ça n'est plus Satan qui gouverne et qui dirige nos vies, maintenant, c'est Dieu. Ça a même été rappelé ce matin dans quelques prières. Et c'est bon de s'en souvenir dans le combat spirituel, parce que quand on s'en souvient, on peut aussi le rappeler à l'ennemi qui essaye de nous faire croire d'autres choses. Ce qui se passe, c'est que si vous prenez la grâce de Dieu à la légère, si vous méprisez sa seigneurie et qu'en conséquence, vous vous mettez sciemment à pécher en vous disant que, bon, de toute façon, Dieu va pardonner, hein, ce que vous faites en réalité, c'est que cette partie de votre vie qui est concernée par ce péché en particulier, eh bien, vous la remettez sous le joug de l'ennemi. Et vous donnez les clés à Satan. Et lui, il ne se fait pas prier. S'il a les clés, il installe tranquillement un ou deux esprits mauvais, et là, c'est une autre paire de manches pour la suite de votre vie spirituelle. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas d'un combat spirituel perdu. Je ne parle pas d'une chute qui a fait suite à une vraie tentative de résister à la tentation en prenant les armes spirituelles que la Bible nous donne. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous sommes pécheurs, dit la Bible, parfois en chute, ça arrive. Et dans ce cas-là, bien sûr, on se repent, on réaffirme la seigneurie de Dieu dans notre vie et on va de l'avant. Je ne parle pas de ça, là. Là, je parle vraiment de ces moments où nous capitulons sans combattre, au prétexte que Dieu fera grâce. Paul nous dit ici que ça n'est pas digne de notre appel, que ça n'est pas digne de notre Seigneur, pas digne du prix que lui a coûté la grâce qu'il nous accorde. La suite de Romains 6 dit ceci, « Je parle de manière humaine, dit Paul, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal, ainsi, maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. » Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Autrement dit, pour paraphraser un peu et pour résumer, vivez de manière conséquente avec la foi que vous professez et avec la grâce qui vous a été accordée. Mettez votre corps tout entier à disposition de la justice. Il y a donc encore une loi de justice à laquelle nous devons obéir parce qu'elle est bonne, juste et sainte. Et alors là, il nous faut aller encore beaucoup plus loin. On va creuser la question. Et d'abord, on va la creuser en nous demandant quelle loi. Selon la tradition rabbinique, on trouverait 613 commandements dans la Torah. Je ne les ai pas comptés, mais je leur fais confiance. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle aussi le Pentateuque. Quand on regarde ces commandements, ce qu'on voit, si vous lisez l'Ancien Testament, ce que vous observez, en fait, c'est qu'il y a des lois qu'on applique, nous les chrétiens, et puis il y en a d'autres qu'on n'applique pas. Pourquoi? Et si, effectivement, nous ne devons pas appliquer tous les commandements, alors comment faire pour distinguer ceux qu'on doit appliquer de ceux qui ne nous concernent pas ou qui ne nous concernent plus? La réponse à cette question, c'est ce monsieur souriant qui nous l'apporte. Il s'appelle Émile Nicole. C'est un théologien. Il est professeur émérite d'Ancien Testament à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et il a donné un jour une prédication que j'ai trouvée très éclairante sur le sujet, dont je me permets de reprendre les grandes lignes. Ce qu'Émile Nicole explique, c'est que pour savoir quel rapport le chrétien doit avoir avec la loi, et notamment avec la loi de l'Ancien Testament, la bonne méthode, c'est d'observer comment ces lois sont accueillies dans le Nouveau Testament, comment ils se sont débrouillés, en fait, les chrétiens, avec les lois qui existaient donc dans l'Ancien Testament. Il y a des théologiens qui ont effectué ce travail et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait, ça dépend des lois. Toutes les lois ne sont pas accueillies de la même façon. ils ont distingué trois types de lois, la loi morale, la loi civile et la loi cultuelle. Alors, la loi morale, c'est la volonté immuable de Dieu pour l'homme. C'est ce que Dieu a voulu et qui ne change pas. Ça ne change pas. Par exemple, tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, ou encore tu honoreras ton père et ta mère. Qu'est-ce qui se passe pour la loi morale dans le Nouveau Testament ? Eh bien, non seulement elle n'est pas abandonnée, mais en fait, elle est amplifiée. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va dire « On vous a dit, tu ne tueras pas. Moi, je vous dis, si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, vous êtes déjà passible du jugement. On vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. » Dans l'Ancien Testament, on comprenait que l'acte était condamnable, mais Jésus pousse jusqu'au bout l'intention de Dieu en nous disant que ce n'est pas seulement l'acte, c'est même la pensée, c'est l'intention qui est condamnable et qui nécessite la repentance et le pardon de Dieu. Parce que, voilà, le ver est déjà dans le fruit. Donc la loi morale pour le chrétien, elle est amplifiée. Ensuite, on a la loi civile. La loi civile, c'est quoi ? C'est la loi qui règle la vie en société. Qu'est-ce qu'on doit faire si une bête échappée d'un troupeau blesse ou tue quelqu'un accidentellement qui passait par là ? Comment est-ce qu'on distingue un homicide involontaire d'un meurtre ? De quelle façon est-ce qu'on doit punir tel ou tel délit ? Dans le Nouveau Testament, ces lois-là ne sont presque pas abordées parce qu'en fait, elles font référence à un contexte particulier. Savoir ce qu'il faut faire si le taureau de M. Dupont a tué M. Durand, ça va vous intéresser si vous êtes dans une société agricole. Si vous habitez Place de l'Étoile à Paris, ça vous parle moins déjà. Donc ces lois dépendent beaucoup du contexte dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces lois ? Eh bien, en fait, on doit s'en approcher avec un peu de bon sens. Ces lois sont intéressantes quand même parce qu'elles nous disent comment Dieu, dans un contexte donné, a réglé les problèmes qui se présentaient à son peuple. Et donc, on peut essayer de comprendre quelle était l'intention de Dieu en établissant ces lois dans ce contexte-là. Et on va pouvoir en dégager des principes pour notre propre contexte de vie. C'est ce que fait Paul dans le Nouveau Testament, par exemple, en 1 Corinthiens 9, verset 9. Paul cite une loi de l'Ancien Testament, une loi qui concerne les bœufs, et qui dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain ». Et il en tire une application qui est adaptée au contexte qui est le sien. « Dieu a-t-il souci des bœufs ?» dit Paul. « En réalité, n'est-ce pas à cause de nous qu'il parle ainsi ?» Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous les biens matériels ? Ce qu'il dit là, d'abord, c'est que s'il ne faut pas museler le bœuf qui foule le grain, c'est en fait pour lui permettre de se nourrir du grain qu'il a foulé. Il foule le grain et en même temps, il peut manger si on ne le muselle pas. Et donc, de cette loi qui concernait les bœufs, Paul tire le principe que celui qui travaille doit recevoir son salaire, doit recevoir en tout cas de quoi pouvoir vivre et se nourrir. Et il va appliquer ce principe à ceux qui travaillent dans l'Église. Il va dire, puisque nous semons parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est une grande chose si, à la fin, en fait, vous permettez notre subsistance ? Comme quoi, les pasteurs peuvent être un peu des bœufs de temps en temps, vous voyez, c'est biblique. Donc ça, c'est la manière d'appliquer les lois civiles dans notre vie. On ne les applique pas à la lettre, parce que notre contexte est différent, mais on peut en tirer le principe, et du coup, on l'applique au contexte qui est le nôtre. Le dernier type de loi qu'on trouve, c'est la loi cultuelle. La loi cultuelle, elle va régir l'aspect rituel du culte. Donc la circoncision, les sacrifices, qui fait quoi dans le temple, etc. Dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est que ces lois font grand bruit dans l'Église primitive. On en a vu un exemple tout à l'heure avec la question de la circoncision. Au début de l'histoire de l'Église, au temps des apôtres, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des chrétiens d'origine juive qui enseignaient qu'en plus de la foi en Jésus-Christ, il était nécessaire d'observer la loi de Moïse et la circoncision en particulier, pour être sauvé. Or, la réponse des apôtres en général, de Paul en particulier, et même de l'Église réunie en concile en acte 15, qu'on a vu tout à l'heure, elle est plus que claire, la loi cultuelle, elle est caduque, elle n'a plus lieu d'être. On n'applique plus les lois cultuelles. Pourquoi est-ce qu'on ne les applique plus ? Eh bien parce qu'en fait, elles ont été parfaitement accomplies une fois pour toutes par le Christ lui-même. Tout le rituel des sacrifices d'animaux, par exemple, n'a plus de sens, n'a plus d'utilité maintenant que le sacrifice parfait est advenu. Christ est mort pour nous, une fois pour toutes, pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et pour ceux à venir. La circoncision, elle n'est plus nécessaire puisque c'est par la foi que nous sommes greffés au peuple de Dieu. La présence du grand prêtre pour entrer dans le Saint des Saints une fois l'an, le Saint des Saints, c'est le lieu de la présence de Dieu. Elle n'est plus nécessaire non plus, puisque par sa mort à la croix, Jésus a déchiré le voile de séparation qui nous maintenait hors de la présence de Dieu. L'existence même du temple de Jérusalem n'est plus nécessaire, puisque Jésus indique qu'il est lui-même le temple. « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours », dit-il en parlant de son propre corps. Et de plus, Dieu vit en nous par son Esprit Saint, parce que de fait, nous sommes, nous, l'Église, corps du Christ, temple de Dieu. Donc, toutes ces lois cultuelles sont caduques, elles n'ont plus lieu d'être. Alors, pour reprendre la question de départ, quelle loi ? On peut récapituler de la façon suivante. Je ne sais plus si... Oui, c'est ça. La loi morale, non seulement on l'applique, mais en fait, elle est même amplifiée par rapport à ce qu'on en comprenait dans l'Ancien Testament. La loi civile, on applique non pas la loi en tant que telle, mais on applique son principe et on l'applique à notre contexte particulier, on l'adapte. Et la loi cultuelle, il n'y a pas d'application, cette loi-là est effectivement caduque. Bien, donc, il y a quand même effectivement des lois à appliquer. Et ça pose une autre question, si vous me permettez, qui est celle-ci. S'il faut obéir à la loi, alors du coup, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on n'est plus sous la loi ? En fait, ce n'est pas qu'il faut obéir à la loi. Ceux qui cherchent le salut par l'obéissance à la loi, on l'a vu déjà quelques fois, arrivent au terrible constat que ce n'est pas possible, c'est impossible. La loi nous condamne. Elle nous condamne parce que nous sommes incapables de la respecter totalement à cause du péché qui est en nous. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Si nous disons que nous ne sommes plus sous la loi, c'est à cause en fait de cette superbe affirmation de Paul en Romains 8, verset 1, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Pourquoi ? Pas parce que la loi n'est pas importante et que finalement c'est pas grave, mais parce que Jésus a porté nos péchés à la croix, tous nos péchés, ceux passés, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. Quiconque se reconnaît pécheur et place sa foi en Jésus-Christ n'est plus sous la condamnation de Dieu, parce que Jésus a payé pour lui cette condamnation en mourant à la croix. Et donc, c'est tout notre rapport à la loi qui change. D'abord parce que, à partir de là, on n'essaye plus d'obéir à la loi pour gagner la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle est acquise, on l'a, c'est fait, c'est Jésus-Christ qui nous l'a acquise. C'est acté. On obéit à la loi par amour pour ce Dieu qui, justement, nous a graciés. Ça, ça change tout. Et ensuite, notre rapport à la loi change parce que notre obéissance n'est plus le fruit de notre volonté, mais devient le fruit de notre soumission à l'Esprit de Dieu. On va aller lire Romains 8, 1 à 15, qui sera affiché également, mais avant, je voudrais faire avec vous un tout petit peu d'anthropologie biblique, parce que ça va nous aider à comprendre ce texte. Nous avons un corps, soma en grec, qui a donné somatisation, tout ça. Le corps, c'est mon corps, voilà. Vous me voyez là, si vous pouvez me voir, c'est parce que j'ai un corps. Nous avons une âme, psyché en grec, l'âme qui est le lieu de la volonté, ce que je veux, de l'intellect, ce que je pense, et des émotions, ce que je ressens. Ça, cet ensemble-là, la Bible l'appelle la chair, sarx en grec, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Par contre, l'âme, vous voyez, l'âme c'est psyché, donc ça, ça a donné... psychologue, psychologie, etc. Ce qu'on appelle la chair, c'est ça nous est commun, en fait, avec le monde animal. D'ailleurs, animal, ça vient du latin anima, qui veut dire âme en latin aussi. Donc, on a ça en commun. Les animaux aussi ont une volonté, ont un intellect, une forme d'intelligence et ont des émotions. Nous, on a un petit truc en plus, c'est la Genèse qui nous en parle. Dieu a insufflé son esprit dans l'être humain. Nous avons un esprit. Cet esprit, au-dessus de notre esprit, il y a l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur, et nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on est supposé fonctionner. Le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent comme le temple, parce que nous sommes temple de Dieu. Dans le temple, vous avez le parvis des gentils. Le parvis des gentils, c'est cette partie du temple qui est la plus extérieure, qui est accessible à tous. Tout le monde peut y accéder. Mon corps, tout le monde le voit. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez éventuellement me mettre la main sur l'épaule. Il est relativement accessible. L'âme serait le lieu saint. Le lieu saint, c'est moins accessible. Il n'y a que les juifs qui peuvent y entrer, et en vrai, même pas tous, que les hommes juifs. Bon, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est comme ça. Et l'âme, c'est la même chose. Elle n'est pas accessible à tout le monde, mon âme. Vous pouvez avoir peut-être une idée de mes états d'âme parce que je tire une tête de 3 pieds de long, ou pas, ou parce que je suis souriant. Mais en vrai, pour que vous ayez accès à mon âme, il faut que je vous en parle, il faut que je vous partage mes états d'âme, que je vous dise ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens. Donc, c'est limité. Tout le monde n'a pas accès à cette partie-là. Et puis, dans le temple, il y a également le lieu très saint, qui est le lieu de la présence de Dieu. Eh bien, nous avons, nous, un esprit par lequel nous pouvons entrer en présence de Dieu. Seulement, voilà. Il y a un problème. Le péché est intervenu. Le péché, c'est ce moment où une autre voix que celle de Dieu se fait entendre dans notre vie et nous décidons d'obéir à cette autre voix. Nous décidons d'obéir à cette autre voix tant et si bien que nous ne sommes plus soumis à l'Esprit du Seigneur, nous sommes soumis à un autre esprit, celui du tentateur. Nous sommes soumis, nous devenons esclaves, pour reprendre les termes de tout à l'heure, de Satan. Quand c'est comme ça, ce qui se passe, c'est que notre esprit meurt. Vous étiez morts du fait de vos fautes, dit Éphésiens 2, versets 1 et 2, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, c'est Satan, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous sommes donc spirituellement morts quand nous sommes dans cet état-là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est spirituellement mort ? Eh bien, il peut se passer, je dirais, 2 choses. La première, c'est, je vais le dire un peu brutalement, mais vous le traduirez comme vous voudrez, vous vous débrouillez, on vit comme des animaux. C'est-à-dire, on vit à partir de notre psyché, de notre âme, de nous-mêmes. Je vais faire ce que je veux, selon mes propres critères. Je vais faire ce que je pense selon ma propre manière de penser. Je vais faire ce que je ressens. Le problème, c'est que tout ça est entaché par le péché. Et donc, nous voulons de travers, nous pensons de travers, et nous avons même des émotions qui vont de travers. Elles nous amènent à faire des choses, tout ça nous amène à faire des choses qui, en fait, ne nous mènent pas à la vie, mais nous mènent à la mort. La deuxième manière, c'est que quand même, nous restons des êtres spirituels. Donc, je dirais que l'esprit est comme mort en dedans de nous, mais il y a quand même cette conscience que nous sommes des êtres spirituels et donc nous allons essayer de combler ce vide qui est là. Et ce vide, on va le combler, en fait, en se tournant vers des idoles. Alors, ça peut être le travail, ça peut être la recherche de gloire, d'argent, ça peut être une sexualité débridée, ça peut être beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idoles dans ce monde. Ça peut être aussi le fait de se tourner vers des idoles plus claires, et pardon de les nommer directement, mais voilà, l'islam, le bouddhisme, d'autres, voilà, des religions en fait, qui nous présentent des dieux qui n'en sont pas. Et un dieu qui n'en est pas, en fait, c'est la définition pardon, mais d'un démon. Un démon, c'est une entité spirituelle qui veut se faire passer pour Dieu, qui veut qu'on l'adore comme on adore Dieu, sauf que ça n'est pas Dieu. Heureusement, superbe animation. Jésus arrive. Il meurt à la croix pour notre péché et il résout ce problème-là. En Éphésiens 2, 5, il nous est dit que Dieu nous a rendus vivants avec le Christ. En prenant sur lui notre péché à la croix, et quand on place notre confiance en Jésus, quand on croit que son sacrifice a été efficace pour nous-mêmes, eh bien, la connexion est rétablie. Notre esprit est régénéré, nous revenons à la vie, nous avons une nouvelle naissance, c'est ce qui nous est dit aussi dans l'évangile de Jean, et nous rentrons à nouveau dans cette connexion, je dirais, avec le Seigneur. Il y a dans ce schéma-là, je ne sais pas si dire une hiérarchie, mais en tout cas, notre corps est en principe soumis à notre âme. Mon bras se lève parce que je veux que mon bras se lève. Alors il y a des exceptions à ça. Parfois, on ne maîtrise plus notre corps, mais en fait, ça s'appelle une maladie. On est malade quand on ne peut pas maîtriser son propre corps. Normalement, notre corps est soumis à notre âme. Normalement, notre âme est soumise à notre esprit. Ça veut dire que ça n'est plus tant ma volonté qui compte, mon intelligence, mes émotions, que ce que me dit l'Esprit de Dieu. Alors, on va y venir en lisant ensemble Romains 8, 1 à 9. Et là, je vais prendre le micro parce que je vais me tourner vers l'écran pour montrer des choses. Alors, c'est comme ça qu'on pointe, oui. Qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit t'a libéré de la loi du péché qui agit ici. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, parce que ma volonté, mon intellect, mes émotions sont perverties par le péché, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Il est mort pour nous, il est mort. Pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair, ceux qui fonctionnent à partir d'ici, s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit, ceux qui fonctionnent à partir d'ici, s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort. L'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemie de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Si je n'ai pas l'esprit, que je ne fonctionne que d'ici, je ne peux pas faire la volonté du Seigneur. Ceux qui sont sous l'empire de la chair, donc, ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, vous êtes sous l'empire de l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre en vous vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous amène à la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hop, je recherche. Je vais y arriver, je vais retrouver. Voilà. Si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a en nous, quelque part, deux volontés, pourrait-on dire. Une volonté qui vient de la chair, une volonté qui vient de l'esprit. Si vous voulez voir ça, voir comment Paul en parle, vous pouvez aller voir ça en Romains 7. Vous pouvez lire ce chapitre. Cette volonté s'oppose à la volonté de l'esprit. Ça veut dire que parfois, il y a des choses que moi je veux, que moi je pense, que moi je ressens. Je veux vraiment, hein. Je les pense vraiment, je les ressens vraiment. Mais l'esprit en moi dit, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Et donc, nous sommes appelés à faire mourir la volonté de la chair et on le fait par l'esprit, on se soumet à l'esprit. Mais ce n'est pas toujours une lutte, parce que l'esprit fait son œuvre en nous aussi. L'esprit fait son œuvre et il vient renouveler notre volonté, notre intellect, nos émotions. De sorte que, parfois, il y a des choses que j'avais envie de faire avant de connaître Christ, mais je n'ai plus envie de les faire. Parce que l'Esprit Saint a fait son œuvre, il a renouvelé ma volonté, mon intellect, mes émotions, et maintenant, elles sont conformes à la volonté du Seigneur. Alors ça, c'est super, parce que ça veut dire que ce n'est pas toujours une lutte. Néanmoins, cette lutte existe parfois. Et Paul, ici, nous exhorte à vivre selon l'esprit et non pas selon la chair, quand ça arrive. Alors, en résumé, il y a des lois auxquelles il est bon d'obéir. C'est bon pour nous d'obéir à ces lois. On les trouve dans la parole de Dieu, la Bible, qui est une parole de vie, et je dirais même une parole vivante, une parole qui vient nous transformer, nous façonner, une parole qui nous mène à la vie. On a vu qu'il y a trois types de lois. Il y a des lois morales que Jésus a amplifiées en disant que ce n'est pas seulement l'action qui compte, mais c'est même l'intention. Il y a des lois civiles dont nous avons à appliquer le principe en l'adaptant à notre propre contexte. Et il y a des lois cultuelles qui se sont accomplies en Jésus-Christ et qui donc sont caduques. Ces lois, nous n'avons pas à les appliquer à partir de notre chair, comme si on était capable de les accomplir par nous-mêmes, ou comme si on allait gagner de cette façon les faveurs de Dieu, mais nous devons les vivre par l'Esprit, en réponse à la grâce de Dieu. Il nous a aimés le premier. Il nous a fait grâce, de sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ. Cette grâce, elle est première. Alors, je ne vais pas botter en touche la question que j'ai posée en introduction de cette prédication, quand j'ai dit que dans l'accompagnement pastoral, nous étions souvent, finalement, face à un questionnement binaire. Si nous devons choisir dans cette Église, est-ce qu'on va appliquer la loi au risque du légalisme ou est-ce qu'on va faire grâce au risque du laxisme ? Évidemment, compte tenu de tout ce que je viens de dire, ce qu'on veut faire, c'est on veut tout faire en fait pour marcher sur nos deux pieds. Mais allons-y franchement, si on devait trébucher, ça serait par excès de grâce. Et c'est un choix. C'est un choix que je crois nous pouvons justifier ainsi. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. On va chanter Sola Gratia, qui est un chant qui nous parle donc de la grâce. Et pendant qu'il s'installe, je vais prier. Seigneur, nous ne voulons mépriser ni ta grâce, ni ce qu'elle a coûté. c'est notre désir que d'obéir à ta loi, non pas pour gagner tes faveurs, non pas pour avoir quelque mérite que ce soit devant toi, mais parce que nous savons que nous sommes au bénéfice de ta grâce, parce que nous savons que tu nous as pardonnés. Et parce que ça nous donne cette grande liberté de nous approcher de toi pour recevoir ce pardon. Lorsque, après une lutte acharnée contre le péché, malheureusement, nous sommes tombés, nous avons chuté. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous sommes pécheurs. Nous ne voulons pas mépriser ta grâce en la prenant à la légère. Nous voulons nous soumettre à ton esprit, Seigneur, parce que ton esprit est un esprit de vie. Nous savons qu'il y a en nous une autre loi qui parfois combat la loi qu'approuve notre esprit. Cette loi, c'est la loi du péché. Mais nous sommes morts avec toi. Nous sommes morts unis à toi pour une résurrection à une vie nouvelle. Seigneur, nous croyons qu'avec toi, nous pouvons vaincre ce péché. Nous voulons entrer de plein pied dans ce combat. Nous ne voulons pas nous satisfaire d'une vie dans le péché. Nous ne voulons pas compter sur toi à la légère. Et en même temps, quand nous chutons, nous savons que tu es là pour nous relever. Seigneur, nous te rendons grâce pour ça, nous te remercions pour ça. Et nous voulons te louer, te chanter, t'adorer pour cette grâce que tu as déversée sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Thank you. grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
Merci Laurent. Je vais demander à la personne.